dans l'Épître aux Romains, c'est le 9e message. Et je pense qu'on va faire, à la fin du 3e chapitre, on va faire une pause et je vais apporter d'autres messages, d'autres thèmes pendant un petit peu, pendant tout le mois de décembre. Et on reprendra en chapitre 4 l'Épître aux Romains après ces autres sujets. Les sujets qu'on va voir ici dans le texte aujourd'hui, c'est Romains chapitre 2. Chapitre 2, verset 17, au chapitre 3 et verset 2. Et je ne vais pas lire en avant parce que le texte, le message est un peu long cette fois-ci, donc on va simplement aller directement dans la parole et j'expliquerai des choses. Mais les sujets que l'on va voir, c'est le vrai croyant en contraste avec le faux croyant, l'extérieur contrasté avec l'intérieur, la pratique de la tradition contrastée avec la pratique de la parole de Dieu, et aussi on touchera un petit peu sur le sujet du sacrilège. Okay, ce sont des thèmes qui vont être abordés dans le message. Donc on est dans Romains chapitre 2, et je commence avec le verset 17. Et puis je donnerai tout de suite quelques explications. Chapitre 2, verset 17. « Toi, qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie, donc c'est qui te vante ou qui est fier ou qui met son orgueil en Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit ou informé par la loi. » OK, donc on s'arrête là juste pour quelques pensées. Et là, je voudrais dire que globalement, nous dirons que ce sont des bonnes choses. N'est-ce pas? Hein? Nous voulons connaître la volonté de Dieu. Amen? Oui? Nous voulons discerner entre les choses et être instruits par la parole de Dieu. Nous voulons nous glorifier en Dieu. Je suis chrétien. J'ai confiance en lui. Je suis fier de Dieu. Et nous nous reposons sur les Écritures. Donc, ce sont vraiment des bonnes choses. Nous voulons pouvoir distinguer la différence entre le bien et le mal, le vrai et le faux. Toutes ces choses sont bien. La seule différence, c'est que nous, on ne s'appelle pas juifs, on s'appelle chrétiens. Ça, c'est la grande distinction là. Mais il continue. Hein? Avec tout cet arrière-plan, quelle attitude avons-nous envers les autres? Et c'est ça la grande distinction, c'est ça le grand problème ici. Risquons-nous d'avoir une attitude orgueilleuse devant les gens qui ne sont pas aussi familières que nous avec les Écritures, qui ne connaissent pas la Bible autant que nous? Est-ce qu'on va être hautain et avoir une attitude envers ces gens-là? Verset 19. Toi qui te flattes, donc l'idée c'est toi qui es persuadé ou es convaincu d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur ou le coach ou l'entraîneur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Donc la règle, c'est la forme extérieure ou l'expression de la connaissance et de la vérité, c'est-à-dire la connaissance et la vérité de Dieu sont dans les Écritures. C'est là, présenté dans une forme écrite. Et les Juifs ont reçu cela. Certes, il y a des aveugles spirituels, les insensés, les ignorants et les non-instruits. Ça existe. C'est l'état naturel de l'homme perdu. Mais ce n'est pas nous-mêmes qui sommes les véritables instructeurs. L'instructeur, c'est Dieu. C'est lui qui instruit dans le cœur des gens. Verset 21. « Toi donc qui enseignes les autres. » Attention, il dit, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets d'adultère. Toi qui as en abomination ou en horreur les idoles, tu commets des sacrilèges. Donc ce mot sacrilège, à la base, c'est l'idée de piller les temples païens. Verset 23. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores, tu traites indignement Dieu. Dieu qui est celui qui est la source de la loi par la transgression de la loi. Pourquoi dire, bah, je suis très content d'avoir une Bible si on ne va pas la suivre? Quel est le résultat de cette attitude et de ces péchés cachés par l'hypocrisie? Eh bien, au verset 24, le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Mes amis, l'hypocrisie est très destructive. C'est un genre de mensonge. Dire une chose, mais faire d'autres choses. C'est un mensonge. Prétendre représenter Dieu et vivre en contradiction avec ses préceptes crée un dégoût chez les autres. En particulier chez nos enfants et chez les non-croyants. Jésus a fortement condamné l'hypocrisie religieuse de son époque. Rien ne détourne les enfants de leur poursuite de Dieu plus sûrement que l'hypocrisie des parents. Paul donne, dans le texte ici, comme exemple d'hypocrisie, le symbole même de l'alliance entre Dieu et Israël, le rite de la circoncision. Verset 25. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Donc ici, Paul entend la pratique intégrale de la loi. Comme dit aussi Jacques, dans Jacques chapitre 2, verset 11, pour une simple faute, dit Jacques, on est condamné par la loi entière. C'est pas que j'ai fait ce péché et c'est que ça, mais c'est ce péché qui représente toute la loi. On est condamné par toute la loi. Paul sait de quoi il parle, puisque auparavant, il s'efforçait, en tant que juif, d'être un homme parfait dans la pratique de la loi. C'est dans ce sens-là qu'il allait poursuivre les chrétiens, les mettre en prison, etc. Et il se vantait de sa réussite jusqu'à ce qu'il a rencontré Jésus. Hein? Verset 26. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature, donc le païen, on prend par exemple Corneille, le centenier, ok? Je pense que c'est Actes chapitre 9 ou 10, ok? Eh bien, ce centenier qui accomplit, qui atteint l'objectif final de la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui transgresses la loi, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Donc, le non-juif, en regardant le juif, qui ne pratique pas ce qu'il dit, je suis fier d'avoir cette loi, c'est pas lui qui va le condamner pour son hypocrisie? Ah, mais toi, tu dis ça, mais... Et je pense que vous connaissez l'exemple ou l'expérience dans vos vies. Il y a toujours quelqu'un, quand les autres connaissent que vous vous dites chrétien, et vous faites une bêtise quelconque, ils disent, vous m'avez dit qu'il vous est chrétien et puis vous avez dit ça ou vous avez fait ça? Oui, c'est vrai. Hein? C'est ça qu'il veut dire ici. Verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, donc les choses visibles, les choses évidentes, dont nous dirons, l'habit ne fait pas le moine. Okay? la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Et donc, par chair ici, on parle du corps physique. D'accord? Verset 29. Mais les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Intérieurement, ça veut dire caché, secret, non visible. C'est là que Dieu nous voit, à l'intérieur. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Et donc, Jérémie, trois fois, parle de cette circoncision du cœur. La louange ou l'approbation de ce juif ou de cette personne ne viennent pas des hommes, mais de Dieu. Dieu nous voit à l'intérieur et c'est là qu'il nous approuve ou désapprouve. En Matthieu chapitre 6 et verset 1, Jésus commence un discours contre la religion extériorisée, donc la religion hypocrite, en disant « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. » Pour en être vu, autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. La Bible enseigne la nécessité de la foi. Et aussi, la Bible enseigne la nécessité de la manifestation extérieure de notre foi. C'est la seconde, la manifestation découle du premier, comme le fruit qui est visible est nourri par la sève qui est cachée. Mais la pratique de la foi, qui est coupée de la foi, donc la pratique sans la foi, ça devient simplement la religion. Ça devient les traditions. Okay? Et certainement, il est plus facile de maintenir une semblance de religion devant les autres gens que d'entretenir une relation vivante avec Dieu. La pratique sans la foi véritable devient rapidement une fausse religion qui finit par aboutir en diverses formes d'idolâtrie, comme on a déjà vu dans Romains chapitre 1. Soyons clairs sur ce point, le véritable juif, c'est le juif qui met sa confiance en l'Éternel. L'Éternel, qui c'est? L'Éternel, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Éternel. Plus tard dans chapitre 10, Romains chapitre 10, Paul va citer Joël chapitre 2, verset 32, en proclamant « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » C'est-à-dire, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. C'est-à-dire, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Le Juif qui croit en Jésus-Christ est sauvé aussi sûrement que le non-Juif qui croit en Jésus. Par contre, l'apparence extérieure de la religion ne sauve personne, les pratiques de la tradition, etc. Puisque le fait, donc la généalogie si vous voulez, le fait d'être juif et le rite de la circoncision ne peuvent sauver personne, le prochain verset, chapitre 3, verset 1, pose cette question. Chapitre 3, verset 1. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Donc l'avantage, c'est la supériorité ou la primauté des Juifs. Quel avantage a le Juif si son héritage ne le sauve pas? Et la réponse est historique. C'est le verset 2. L'avantage, il est grand de toute manière. Et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. La parole de Dieu était confiée au peuple juif. Le fait, c'est que les Juifs ont eu accès à la révélation divine avant tout le monde. Quel privilège! Comme par exemple David dit dans Psaume 119, le verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mais les païens n'avaient pas cette lumière. Ils étaient dans les ténèbres. Donc Dieu a donné tout d'abord en avantage aux Juifs la parole de Dieu. Alors c'est intéressant que dans le grec de cette phrase, il y a un petit mot qui n'est pas traduit. Ce mot est la première partie de notre expression d'un côté. Donc on dit d'un côté et suivi habituellement par la seconde expression de l'autre côté. OK? Normalement, c'est comme ça, mais dans ce verset, dans ce cas, il n'y a pas de seconde partie. J'ai regardé, j'ai fait jusqu'au chapitre 8 en cherchant l'autre partie. Ah ben, ça n'existe pas. OK? Pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé premièrement et uniquement au peuple juif. Il n'y a pas de livre de Mormon inspiré ou Coran inspiré. Il n'y a pas d'autre révélation. Il n'y a que la révélation que Dieu a donnée au peuple juif qui est enregistrée dans les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc Dieu a choisi Abraham et ses descendants pour transmettre sa révélation, les Écritures, au monde, mais aussi pour faire venir le Sauveur dans le monde. Le signe de cette alliance entre Dieu et Abraham et ses descendants, c'était la circoncision des garçons. Donc, je vous pose une question. N'avez-vous jamais constaté que la Bible entière est un produit juif? Tous les livres de la Bible sont de la main des Juifs. Dieu a utilisé ce peuple à cet objectif de faire connaître sa révélation. Voilà l'avantage du Juif. Il a eu, avant tout le monde, accès à la connaissance exacte de Dieu et du chemin de salut. Nous, le reste du monde entier, hein, tous les autres, nous en bénéficions, si du moins nous la lisons et nous la mettions en pratique. Nous voyons donc que, premièrement, quiconque ignore ou est ignorant de la révélation de Dieu n'obtiendra aucun bénéfice spirituel. Dieu communique la révélation pour que les gens puissent être bénis. Qu'ils soient juifs ou non-juifs, ignorer la parole de Dieu veut dire qu'on reste dans les ténèbres. Puis aussi, de l'autre côté, simplement, donc, voilà, j'ai une Bible là. Et si je lis la Bible, mais je n'agis pas selon la Bible, je ne crois pas à ce que dit la Bible, ou si je lis la Bible et je agis au contraire de ce que dit la Bible, eh bien, je ne fais que me rendre plus coupable. Ça, c'est pas souhaitable. Donc, à travers ce paragraphe, Paul argumente contre la fausse idée que les rites d'enfance peuvent sauver une personne. Paul dit non, aucun acte extérieur, aucun rite religieux ne peut vous approcher de Dieu. OK, donc dans le verset 25 parle de la circoncision. La circoncision est le rite d'enfant pratiqué chez les Juifs, conformément à la loi de Moïse. Et c'est pour cela que le bébé Jésus, le huitième jour de sa vie, a été circoncis. Pourquoi? Pour respecter la loi de Moïse. Le Nouveau Testament n'a pas remplacé la circoncision des bébés par le baptême des bébés. Hein? Le Nouveau Testament n'a pas remplacé la circoncision avec le baptême. Okay? Il n'y a rien dans le Nouveau Testament qui autorise le baptême des bébés, ni le baptême des non-croyants. Par un faux raisonnement, le monde catholique et orthodoxe est arrivé à croire à tort que le baptême sauve une personne. Donc, ils se sont efforcés de contraindre les populations païennes moyenâgeuses à soumettre au baptême, pensant faussement que l'eau de baptême sauverait l'âme des païens. Aujourd'hui, ils continuent à contraindre le baptême des bébés. Pourquoi? Parce qu'ils pensent, à tort, toujours à tort, que les rites religieux ont un effet spirituel. Et il faut le reconnaître que beaucoup de protestants entretiennent des idées semblables parce qu'eux aussi, ils baptisent les enfants, les bébés. Dieu n'est pas impressionné par ces actes matérialistes. Il n'est pas impressionné par les rites, par le baptême, rien. Il n'est pas impressionné parce que vous êtes une personne belle, vous êtes riche, vous êtes intellectuel, vous avez des capacités artistiques. Ça n'impressionne pas Dieu. Dieu n'est pas impressionné par le pédigré d'une personne, donc le fait qu'il soit juif ou pas. Hein? Selon le verset 29, Dieu regarde l'invisible. Il regarde l'intérieur. Il voit le cœur. Dieu veut savoir ce que vous avez là, dans votre cœur, dans votre intérieur. D'ailleurs, il le sait déjà. Donc, que devons-nous faire? C'est un jeu comme un genre de prière. Que la parole de Dieu puisse enseigner votre cœur et vous rendre sensible aux pensées de Dieu et de sa volonté. C'est ça que nous voulons. Je veux pour moi et je veux pour vous. Bien que tout ce paragraphe, même plus que le paragraphe, tout ce passage mette en relief le juif, le fait c'est que Paul parle des juifs d'autrefois. C'était les juifs il y a 2000 ans. Pour nous, nous devons penser plutôt aux chrétiens. Parce que depuis près de 2000 ans, nous aussi, les chrétiens, nous avons la parole de Dieu. Pourtant, combien de monde dans la chrétienté lisent, croient et pratiquent l'enseignement biblique? Combien de monde dans la chrétienté se contente de pratiquer les traditions religieuses humaines et d'ignorer totalement la parole de Dieu? Jésus n'a-t-il pas critiqué les Juifs sur ce point? Ne sommes-nous pas aussi coupables que les Juifs quand on agit pareil? Combien de chrétiens évangéliques se contentent de leur passage préféré et ignorent le reste de ce que Dieu veut d'eux? Combien de chrétiens négligent les points les plus importants des Écritures, comme aimez-vous les uns les autres? Dans le verset 22, je change un peu le sujet, il y a ce mot sacrilège. Sacrilège, et comme je vous ai dit, à la base, ce mot dans le grec veut dire voler ou piller les temples. Alors le fait, c'est que peu de monde va agir aussi grossièrement pour aller dans un temple et voler les choses. Il y a toujours quelques personnes comme ça, mais normalement, on ne va pas faire ça. Nous sommes plus, bien plus sophistiqués. Et Malachi, dans son petit livre de l'Ancien Testament, il aborde cette question de sacrilège. Peut-on tromper Dieu? Ou, d'autres traductions, peut-on voler Dieu? Et la réponse est oui. On peut tromper ou voler Dieu. Et Dieu dit, donc je prends quelques phrases dans ce chapitre 3 de Malachi, il dit, Dieu dit, car vous me trompez. Donc, est-ce possible? Oui, parce que vous le faites. Et donc, comme nous savons, hein, nous devons montrer à Dieu notre amour en pratiquant ce qui est dans la Bible. Quand on applique la Bible à nos vies, quand on respecte ce que Dieu nous dit dans sa parole, on montre à Dieu qu'on l'aime par notre participation, par exemple, dans les frais du culte, selon la volonté de Dieu, et nous devons aussi exprimer à Dieu notre reconnaissance. Nous devons aussi exprimer envers Dieu notre confiance. Donc, ce sont des façons par lesquelles nous allons montrer à Dieu qu'on l'aime. Donc, envers les Juifs de l'époque, Dieu les blâme. Il dit, vous me trompez dans les dîmes, dans les offrandes. Et même, il ajoute au verset 13, chapitre 3, verset 13, vos paroles sont rudes contre moi. Les Juifs de cette époque-là, c'est 400 ans avant Jésus, sont arrivés à dire, voici les choses qui sont dans Malachie. Les Juifs disaient, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes? Heureux les hautains! Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Comme si Dieu ne savait pas ou ne faisait rien. Le point, c'est malheureusement aujourd'hui, quand vous écoutez, vous allez entendre les chrétiens qui disent ces choses-là. C'est grave. Alors Dieu, il répond, donc à comprendre, Dieu était en train, quelque part, de punir les Juifs de l'époque. Donc il retirait la pluie. Et c'était une économie agricole, ok? Donc, puisqu'il n'y avait pas la pluie, il n'y avait pas les plantes qui poussaient bien. Et Dieu, donc, on va dire, en nos termes modernes, l'économie allait très mal. Voilà, ok? L'économie n'était pas bien. Et comment réagissaient les Juifs? Eh bien, au lieu de donner la dîme, comme il devait donner, il donnait peut-être le dixième de dîme. Et Dieu dit, vous êtes en train de me voler. Il dit, si vous, donc dans le contexte, l'économie va très mal, mais si vous respectez mes préceptes, donc il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Donc c'est oui, c'est un acte de foi, quand ça va mal, de prendre mes petites ressources et de donner ce que Dieu veut, eh bien, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Il les appelle à réagir par la foi en attendant à ce que Dieu agit comme Dieu promet. Il me semble que Jésus a dit à peu près la même chose dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, quand il a dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessous. » Dieu veut qu'on ait confiance en lui et on agit en conséquence de notre confiance. Donc, ayez confiance en Dieu. Surtout quand ça ne va pas bien. Ce n'est pas à ce moment-là d'abandonner. C'est à ce moment-là de vous accrocher. Frères et sœurs, nous devons apprendre à voir à travers les yeux de Dieu par le biais de la parole de Dieu. Soyons des chrétiens intègres, entiers. Attention à l'hypocrisie. C'est très néfaste, là, l'hypocrisie. Attention à cette attitude de supériorité vis-à-vis des non-croyants et des autres croyants. Attention au sacrilège. Et puis, aimez Dieu. Aimez Dieu, montrez-lui votre amour et montrez-lui votre reconnaissance.